Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean 8, verset 32. 32 à 36. Jean, chapitre 8, du verset 32 au verset 36. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Voilà ce que le Seigneur dit. À deux reprises, il parle de la même chose. Il dit au verset 32, au verset 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et lorsque le Seigneur parle à ces personnes, à cette foule qui est là, ces gens ne sont pas enchaînés, visiblement. Ces gens ne sont pas dans une prison. Ces gens sont visiblement libres. Ils peuvent aller de gauche à droite, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Mais Jésus dit à ces personnes, en réalité, vous n'êtes pas libres. D'où la question qu'ils posent. Ils disent, mais pourquoi nous parles-tu de cela? Est-ce que nous sommes esclaves? Regarde, nous sommes libres. En plus, nous sommes le fils d'Abraham. Et Jésus leur dit une seconde fois, il dit, en vérité, je vous le dis, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, ici, en lisant ce passage, c'est ce que nous pouvons vivre aussi autour de nous. Beaucoup de gens ne sont pas en prison de manière physique, mais en réalité, ils sont esclaves de quelque chose. Ils sont esclaves du qu'en dira-t-on. Ils sont esclaves du regard des autres. Ils ne vivent pas en fonction d'eux. Ils vivent en fonction de ce que l'autre dira. Ils vivent leur vie, en quelques termes, par défaut. Lorsque les retours sont positifs, eh ben on est content. Lorsque les retours sont négatifs, lorsqu'il y a une critique, eh ben la personne est malheureuse. Et c'est de ça que Jésus parle. Là, il parle effectivement de l'esclavage par rapport au péché. Il dit, un homme qui est esclave, eh ben c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui est malheureux. Et l'apôtre Paul nous démontre cela. Lorsqu'il parle, dans Romains 7, il dit, eh ben, « Je sais ce qui est correct. J'ai envie de le faire, mais il y a en moi quelque chose qui me lie, qui me pousse à faire ce qui est mal. Et une fois que je l'ai fait, eh ben, je suis triste. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je me suis fâché? Pourquoi j'ai insulté? Pourquoi je ne me suis pas tué? Mais pourtant, l'intention... peut-être de faire le bien est là, mais la puissance pour le faire n'est pas là parce que le péché est là et le péché domine. Et beaucoup sont visiblement libres, mais en réalité, ils sont esclaves. Et le thème de notre exhortation de ce matin, c'est libérer du regard des autres, libérer de la puissance de notre environnement. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous vivons par rapport à ce que disent les Écritures, par rapport à la Bible, par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Et non pas en fonction des regards, de ce que les gens pensent. Eh bien, si je fais cela, au lieu de se poser la question, comment le Seigneur va réagir? Est-ce que si je pose cet acte, le Seigneur sera glorifié? On se dit, eh bien, si je fais cela, eh ben, je suis connu comme étant chrétien. Eh ben, je ne dois pas faire cela. Eh ben, si je fais cela, qu'est-ce que va penser un tel? Et là, ce n'est pas ça la liberté du Seigneur. Parce qu'un jour ou l'autre, des événements vont se présenter pour nous rappeler qu'en réalité, c'est une fausse liberté. La véritable liberté, elle se trouve en Jésus-Christ. Et celui qui est libre en Jésus, là-bas, ne cherche pas à savoir. Qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que l'autre dit? Je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit vivre une vie égoïste sans tenir compte de son entourage. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis, notre vie à nous, elle est conduite et dirigée par la parole, par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, par un moment, il te dira, dis telle parole. Tu arrives au péage, tu donnes ta carte, tu donnes ta pièce. Et là, tu es inspiré de dire que Dieu te bénisse. Mais beaucoup ne sont pas libres. Ils vivent au travail, à la maison, dans la famille, en sous-marin. On ne veut pas que les gens sachent que je suis chrétien. Et ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Et nous allons voir cela. Nous lisons Matthieu au chapitre 16. Une chose que Jésus nous apporte encore ce matin qui est tellement précieuse. Matthieu 16. Matthieu 16, du verset 13. Au verset 17. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Alors, Jésus pose la question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors les disciples commencent à spéculer, à répondre. Bon, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Certains pensent qu'en fonction de ce que tu fais, tu es Élie, qui avait été promis. Certains pensent que tu es un des prophètes, Jérémie. Qui dit-on que je suis? Et ensuite, Jésus pose la question aux disciples. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? Après avoir vu les œuvres que j'ai pu pratiquer, la façon de vivre, vous qui? Pour qui? Pour vous, qui suis-je? Et là, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, nous revenons à la première partie. Qui dit-on que je suis? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Beaucoup vivent leur vie chrétienne comme des journalistes qui prennent des informations. On écoute à gauche quand on nous fait des éloges. On écoute à droite quand on nous critique. Et cela nous affecte. Et le Seigneur dit aux disciples, il dit non, ce n'est pas ce que les gens disent qui est le plus important. Parce que les spéculations, il y en aura toujours. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous qui avez vu, vous qui avez entendu les enseignements, qu'est-ce que vous dites? Et j'irai même plus loin pour dire, ce qui est important pour Jésus à ce moment-là, c'est d'avoir le témoignage de son Père. C'est ça qui est important. Jésus a amené les disciples à témoigner de ce qu'il était véritablement. Il aurait pu le dire. Il aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Messie d'Israël. Mais en posant cette question, c'est ce que je méditais, je me dis, mais pourquoi il pose cette question? Pourquoi il n'a pas posé directement la question en disant, vous qui? Pour qui? Pour vous, qui suis-je? Eh bien, l'enseignement qui est là, c'est que pour le Seigneur, ce qui importe, c'est le témoignage que lui fait de nous. C'est ça le plus important. Et une fois qu'on a compris, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Il dit quoi? Tu es heureux. Amen. Tu es heureux. Donc, celui qui a compris qui il est en Jésus-Christ, eh bien, il est heureux. Sa joie, son bonheur ne dépend pas des événements extérieurs. Sa joie à lui dépend du fait qu'il obéit à la parole de Dieu. Sa joie à lui dépend du fait que son nom est inscrit là-haut. Sa joie à lui dépend du fait que Dieu le connaît. On se rappelle dans Matthieu 7, 21, où ces gens qui diront au Seigneur, « Mais Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons prié pour les malades, nous avons jeûné, nous avons fait... » Qu'est-ce que le Seigneur dira à ces gens-là? « Eh bien, je ne vous ai jamais connu. » Mais pourtant, c'était peut-être des gens qui jouissaient d'une bonne réputation, qui étaient respectés, qui avaient l'approbation des humains. Mais est-ce qu'ils ont été agréés par le Seigneur? Non, pas du tout. Jésus dit à Pierre, il dit, « Puisque vous avez compris ça, alors vous êtes heureux. » Vous êtes heureux. Libérés du regard, de la pression, de notre environnement. Nous vivons dans un monde où les chrétiens sont de plus en plus combattus. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on le voit dans le fonctionnement avec les lois qui sont votées. Donc affirmer le fait qu'on est chrétien, eh ben on ne peut pas s'attendre à ce que les gens applaudissent, disent bravo, non. Et le message du Seigneur ce matin, c'est de nous dire, eh ben ce qui est le plus important, ce qui compte, c'est qu'est-ce que lui, le Seigneur, dit de nous. Et lorsqu'on a compris cela, alors on est libre. On est libre. On peut chanter. On peut adorer le Seigneur, on peut témoigner du Seigneur au travail, à l'école, partout où nous sommes, dire « Dieu vous aime ». C'est cela. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris qui est Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'eux-mêmes sont enfants de Dieu. Ils n'ont pas compris cela. Et c'est une raison qui fait que beaucoup sont tristes, sont malheureux. Le Seigneur veut nous délivrer. Il veut que nous soyons totalement libres. Que nous puissions vivre pour lui. C'est ça la volonté de Dieu. Nous allons prendre quelques points qui sont des dangers du fait de se fier au regard des humains. Le premier point, c'est que les hommes étant toujours insatisfaits, eh ben, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des critiques. Aujourd'hui, ça sera des critiques positives. On se rappelle, dans Luc, au chapitre 11, la femme qui vient voir Jésus pour dire « Oh, bénis la femme qui t'a apporté les mamelles qui t'ont allaité, que cette femme soit bénie, quel éloge !» Et qu'est-ce que Jésus répond à cette femme-là? Il dit, femme, bénis plutôt celui qui écoute ma parole et qui la garde, qui la met en pratique. Jésus n'était pas impressionné par ce que les gens pouvaient dire ou raconter, non. Il n'était pas impressionné, parce que les mêmes qui font ces éloges, ce sont les mêmes qui diront, il a un démon, il a un problème. Eh bien, ce sont les mêmes. Puisque l'homme est comme ça. Alors se fier à ce qu'on peut recevoir en retour, eh ben ça va nous jouer des tours. Nous sommes chrétiens, comme nous l'avons dit au début, nous sommes chrétiens pour vivre la parole de Dieu. Nous vivons en fonction de ce que dit le Seigneur. Nous vivons en fonction de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est écrit aussi, 2 Timothée 3:12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter et intégrer. Donc les mêmes qui vont t'applaudir aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont te critiquer. Tu vas donner un bon conseil à quelqu'un, ils diront, ah, quelle sagesse de Dieu. Tu vas prier pour quelqu'un, il est guéri, oh, merci beaucoup. Dieu existe, mais les mêmes là, quand tu diras la vérité qui fera mal, ce sont les mêmes qui vont te fuir. Et le Seigneur veut aujourd'hui que nous soyons totalement libres du regard des autres. Le danger de vivre dans cela, un deuxième danger, c'est quoi? C'est de pouvoir exister par cela. Il y a des gens, il fait quelque chose, ah ben il attend à ce qu'on lui dise félicitations. Lorsqu'on lui dit rien, il se dit, mais il y a un problème. Ah, tel frère, il a un problème avec moi. Telle sœur ne m'a pas dit bonjour, mais il y a un problème. Mais non. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. On s'habitue. On prend plaisir. Tu chantes aujourd'hui, tu attends. Tu attends quand tu dises, ah, tu as bien chanté. Bien-aimé, tu as bien joué. Bien-aimé, tu as bien prêché. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est que si le travail que tu as fait a pu toucher le cœur de la personne qui est là, que ce soit au travers de la façon de jouer, du chant, de la parole que tu sors, si ça amène les gens à prendre de véritables décisions, alors là, le Seigneur est glorifié. C'est ça. Un troisième danger, c'est de vouloir plaire. Nous lisons ce que l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 1er. Galates 1, verset 10. Galates, chapitre 1er, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'il n'y a pas d'entre-deux. Si je veux plaire à Dieu, eh ben forcément les hommes seront froissés. Eh ben si je veux plaire aux hommes, alors là, à ce moment-là, je ne sers pas Dieu. C'est ça, y a pas de, c'est pas gris, c'est blanc ou noir. C'est un choix. Et vivre en fonction de ce que les gens pensent, eh ben à un moment donné, on sera poussé à, comme on dit, hein, il faut de la sagesse, il faut arrondir les angles, il faut pas choquer, il faut pas déranger les gens. Et l'apôtre Paul est clair, il dit, eh ben, si je cherche à plaire aux hommes, alors là, ce n'est plus Dieu que je sers. Ce n'est plus Dieu que je sers. Et vouloir vivre en cherchant l'approbation des humains va nous amener dans le compromis. Là où il faut dire la vérité, dénoncer le péché, eh ben on va trouver des circonstances atténuantes. On va chercher à excuser. Et lorsqu'on voit un chrétien qui est ferme dans ses positions, on dit « Toi, tu es extrémiste. Toi, tu es trop spirituel. Toi, tu exagères. » C'est ça le danger. Et le Seigneur veut nous délivrer aujourd'hui. Chercher à vivre en fonction des regards des autres, ça va nous pousser à vouloir plaire. À préparer des prédications en fonction de l'humeur. On reçoit quelque chose, on dit, bon là, je ne peux pas trop parce que le frère là qui donne beaucoup d'offrandes, il va penser que c'est pour lui, c'est contre lui que je prêche. C'est ce que Paul est en train de dire. Si je cherche à plaire aux humains, alors je freine l'action que Dieu veut faire au travers de moi, eh ben je freine cette action-là. Or, comme nous l'avons lu dans Jean 8, 32, 36, le Seigneur dit, c'est la vérité qui rend libre. Peut-être que la personne a besoin d'entendre cette vérité-là, qui fait mal, mais par cette vérité qui fait mal, il sera guéri. C'est comme le médecin qui doit opérer une personne pour que la personne soit guérie, aille mieux. Ah ben, il faut passer par là. Et Paul dit, si je cherche à plaire à ce moment-là, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Que notre désir à nous soit de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Un autre danger, c'est de renoncer à obéir à la volonté de Dieu. Puisqu'on se pose la question, mais qu'est-ce que diront les gens? On lit dans Marc au chapitre 10, c'est un passage que j'aime beaucoup. Marc 10, verset Marc 10, à partir du verset 46. C'est l'histoire d'un aveugle qui s'appelle Bartimée. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Voilà cet homme qui entend parler de Jésus. Il entend que Jésus passe par là, alors il se met à crier. Les gens lui disent, « Tais-toi, silence !» Il crie encore plus fort. Il dit, « Jésus de Nazareth, aie pitié de moi !» Cet homme, imaginons maintenant qu'il ait entendu la pression que lui met cette foule. Eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fait? Eh bien, il se serait tué. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Le Seigneur te pousse à faire quelque chose, tu n'oses même pas, tu dis, mais quelle sera la réaction des gens autour de moi? Si je me mets à parler ici, si je me mets à annoncer le Seigneur, je veux mettre les gens mal à l'aise. Mais cet homme-là, est-ce que c'est le confort des autres était son problème? Non! Lui, il avait son problème à lui. C'était Jésus est là, lui, il est aveugle, il sait que la solution est là, alors que faire? Que faire? Eh bien, crier! On dit, tais-toi, tu déranges! Il crie encore plus fort! Il crie encore plus fort! Et Jésus entend. Et il dit, faites-le venir, cet homme. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit que je vois, que je recouvre la vue. Il dit, vois qu'il te soit fait selon ta foi. C'est cela. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Là où nous devons nous exprimer, tant de fois on se contient, on se maintient, on se conforme à l'endroit où on est. Comme on dit en français, le politiquement correct. En fonction de l'auditoire, de l'endroit où nous sommes, on adapte le discours, la façon de parler. Avec les chrétiens, on est chrétien. Avec les païens, bah, on est neutre, on ne veut pas choquer. Et ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Bartimée voit Jésus, il crie. Il dérange. Il a peut-être choqué les gens. Mais lui, ce qu'il voyait, c'était que Jésus est là. Alors pourquoi? Qui va me retenir? Moi, je suis aveugle depuis longtemps. Là-bas, il crie à Jésus. Un autre danger, c'est que nous passons à côté des bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous. À cause de quoi? À cause du regard des autres. À cause de la foule. On se souvient de cette femme dans Matthieu 9, dans Luc 7, qui avait la perte de sang. Et lorsque nous lisons dans le contexte, de telles femmes ne pouvaient même pas approcher des foules parce qu'elles étaient considérées comme impures. Impures. Dans le péché. Cette femme a tout dépensé, tout ce qu'elle avait. Elle entend parler de Jésus. Il est écrit dans Matthieu 9. Elle se disait en elle-même, « Si je peux m'approcher de Jésus et le toucher, alors je serai guéri. » Alors imaginons maintenant qu'elle se mette à réfléchir, à se dire, « Mais il y aura des pharisiens dans la foule. Il y aura les disciples de Jésus. Il y aura les gens de la foule, les hommes, les femmes, qui vont me voir dans cet état-là. Mais qu'est-ce qu'ils vont me dire? mais je risque d'être humilié. Mais je risque d'être chassé. Mais il y a toutes sortes de mais qu'on va sortir. Elle a pris ce courage à deux mains. Elle, ce qu'elle avait dans son cœur, elle s'est dit, eh ben, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, je vais aller, je vais toucher son vêtement. Et je serai guéri. C'est ça. Un acte de foi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire aussi au milieu de nous. Nous délivrer totalement. La bénédiction de cette femme passée par le fait d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens allaient dire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cette femme touche Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'il m'a touché, mais les gens disent, mais Seigneur, mais regarde cette foule, comment tu veux qu'on retrouve celui qui t'a touché? Ça n'a pas de sens, Seigneur, ce que tu dis là. Où est-ce qu'on va retrouver la personne? Il dit, non, il y a une personne qui est venue et qui m'a touché. Et il est écrit, la femme se sentant dévoilée, elle dit, c'est moi. Jésus dit, vas-y maintenant, tu es guéri. C'est cela. Le Seigneur veut nous délivrer. Il veut nous délivrer. Un autre danger de la pression du regard, c'est d'être limité dans le service du Seigneur. On est limité. On va lire l'exemple d'un homme, un grand même, Galates, chapitre 2. Galates au chapitre 2. Du verset 11 au verset 14. Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Alors, on explique le contexte. C'est que Pierre, dont on parle ici, Céphas, c'est Pierre. Eh bien, Pierre mangeait avec les païens. Et lorsque les autres disciples arrivent, eh bien, Pierre fait comme s'il ne connaissait pas ces gens-là, parce qu'il y a la pression. Il se dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient, moi, manger avec des gens de mauvaise vie? Ben, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et c'est ce qui arrive. Alors Paul arrive, il va voir Pierre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais là, c'est de l'hypocrisie, Pierre. Il dit, toi, tu as reçu l'évangile de Christ. Eh bien, tu ne peux pas te comporter de cette manière-là. Pourtant, c'est Pierre dont on a lu hein, dans Matthieu 16, la déclaration, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et bien voilà Pierre en fonction, voilà, sachant la pression qui allait venir sur lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Les disciples qui vont arriver, ils vont me voir avec des gens de mauvaise vie. Ils vont se dire, peut-être que Pierre s'est détourné. Pierre a un problème. Et c'est ce qu'il a fait, il a fait l'hypocrite. Barnabas et tous les autres aussi ont fait la même chose. Et lorsque Paul arrive, il dit non. Là, c'est de l'hypocrisie. Le danger de vouloir vivre en fonction des regards, de l'ambiance, eh bien, c'est que ça va nous empêcher finalement de servir Dieu. Parce que le but du Seigneur, c'était d'avoir un contact avec les païens pour les sauver. On se rappelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les critiques que Jésus a eues par ailleurs. Lorsqu'on parle de Zachée, on dit quoi? Eh bien, il est allé chez un homme pécheur, un voleur. Dans Luc 7, lorsque Jésus entre chez Simon, ce pharisien, la pécheresse vient, elle vient adorer le Seigneur. Simon est assis en colère, il dit, mais s'il savait quelle est cette femme. s'il savait, s'il était vraiment prophète de Dieu, ah ben il saurait qui est cette femme. Il saurait réellement qui elle est. Le Seigneur veut que nous puissions le servir. Mais comment servir Dieu si nous ne sommes pas libres? Comme nous avons dit, parfois le Seigneur va nous amener dans ce qui n'est pas conventionnel. Parfois le Seigneur va nous amener dans des positions où tout le monde va à gauche, il te dit d'aller toi à droite. Mais pour cela, il faut vivre pour Dieu. Mais comment vivre pour Dieu? Ben, c'est être libre. On a déjà médité dans notre cœur, on s'est dit, bon, là, la position que je prends, je suis conscient qu'il y aura des représailles. Il y aura une mise à l'écart. Eh bien, j'accepte cela pour le Seigneur. C'est ça. Je ne prends pas la position parce que je me dis, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Mais je prends la position parce que je sais que c'est ce que dit la Bible, les Écritures. Et ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, c'est ça qui importe pour moi. Ce qui a inspiré l'exhortation de ce matin, c'est un livre pour enfants, un livre pour chrétiens et pour enfants. Et le titre, c'est « Tu es précieux ». Peut-être que certains connaissent ce livre-là. Et donc, dans ce livre, il y a des personnages qu'on appelle des vémiches. Des vémiches, ce sont des petits bonhommes en bois qui ont été fabriqués et qui vivent dans un village, dans une ville. Alors, ils passent leur temps, tous les jours, à se coller des gommettes. Ils collent des gommettes en forme d'étoiles pour ceux qui ont des talents, qui sont beaux, qui ont une belle peau. Donc, ils sont dans la rue, chacun avec ses gommettes, sa boîte. Et quand quelqu'un passe avec une belle peau ou alors qui a des bons talents, eh ben, il colle une gommette en étoile. Et forcément, quand les gens voient le bonhomme avec des gommettes en étoile, eh ben forcément, ils viennent, ils rajoutent encore des gommettes en étoile. Maintenant, pour ceux qui sont moins doués, qui sont moches, eh ben, ils collent des gommettes en rond. Alors, il y a un personnage qui ne sait rien faire. Dans le texte, ils disent qu'il est moche, il ne sait rien faire, il ne sait pas sauter, il ne sait rien faire du tout. Alors forcément, chaque fois qu'il sort, ce sont des gommettes en rond qu'il a. Et quand les gens le voient avec des gommettes en rond, ils viennent, ils rajoutent aussi parce qu'ils se disent, bon, excusez-moi le terme, entre guillemets, il est nul. Ils rajoutent encore des gommettes. Alors un jour, ce personnage-là rencontre une fille sans gommettes. Il dit, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que dans ce village, tout le monde a une gommette? Ceux qui ont des étoiles, on sait qu'ils sont forts, ils ont du talent, ils parlent bien, ils sont efficaces dans ce qu'ils font. Ceux qui ont des ronds, comme moi, eh ben, ils ne savent rien faire. Alors comment ça se fait que toi, tu n'as pas de gommette? Alors la fille lui dit, bah, moi je connais l'adresse d'une personne, c'est lui qui nous fabrique. Cette personne s'appelle Élie. Alors je te donne l'adresse de cette personne, tu iras voir et tu sauras comment moi, les gommettes ne tiennent pas sur mon corps. Bon, il est resté chez lui. Il n'osait même plus sortir parce qu'il se dit, bon, à chaque fois que je sors, eh ben, on me rappelle que je suis nul, on me colle des ronds. Alors il restait chez lui, triste. Et un jour, il décide finalement d'aller voir celui qu'il a créé, Élie. Il va le voir, il rentre. Lorsqu'Élie le voit, il dit, ah, mais je suis content, je t'attendais, je voulais te voir. Il dit, ah bon, comment tu me connais? Il dit, oui, mais c'est moi qui t'ai fabriqué, je te connais. Il dit, ah bon? Alors il discute. Et ensuite, il lui pose la question, il dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai toujours des gommettes en rond? Personne ne veut de moi, quand les gens me voient sur la route, ils me méprisent. Alors pourquoi je suis comme ça? Alors, ce monsieur Élie lui dit, tu sais, les gommettes collent sur votre peau parce que vous accordez de l'importance à ce que les gens pensent de vous. Quand les gens disent tu es fort, tu es beau, tu es grand, tu as du talent, ils te mettent l'étoile. eh bien, ça reste sur toi parce que c'est ça que tu acceptes, tu crois aussi en ça. Et l'autre, à contrario, qui reçoit les ronds, c'est parce qu'il se dit, bon, de toutes les façons, on m'a toujours dit que je suis nul, que je ne veux pas réussir, que finalement, je n'ai aucune valeur. Alors Élie lui dit, si tu crois que tu es précieux à mes yeux tel que tu es, que je t'aime tel que tu es, que je t'ai fabriqué avec mon amour, alors les gommettes n'auront pas d'emprise sur toi. Et à ce moment-là, lorsque il rentre chez lui, les gommettes commencent à tomber. Ça ne tient plus. Et la morale de l'histoire, c'est derrière, c'est écrit que dans ce monde, c'est un livre pour enfants, mais voilà l'enseignement qui est derrière. On dit dans ce livre, dans ce monde, il y a deux discours que l'enfant va retenir. Le premier discours, c'est que tu as de la valeur parce que tu es fort, parce que tu es intelligent, parce que tu joues bien au basket, parce que tu as toutes les valeurs possibles. Ou alors, il y a le deuxième discours, c'est que tu as de la valeur parce que Dieu t'aime et il a envoyé son fils pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour ce personnage, Puccinello. Donc quand il est rentré chez lui, il a compris que finalement, celui qu'il a créé, l'aimait, il a créé parfait. C'est ce que David dit, psaume 139, 13 à 14. Il dit, Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alors de qui aurais-je crainte? Qui vais-je craindre? Et lorsqu'il est parti chez lui, les gommettes ont commencé à tomber. Finalement, le regard des autres, le jugement des autres, finalement, n'avait plus aucune valeur sur lui. N'avait pas d'emprise. Je ne dis pas que le jugement n'est pas là, il est là. On va te dire, oh, tu es chrétien, ah, pasteur, ah, Jésus. On va se moquer de toi. Mais toi, quand tu sais que quand on dit Jésus, là, en se moquant, toi, tu penses à Jésus, ton Seigneur qui est mort à la croix, qui peut sauver tous les humains. Alors, qu'est-ce que ça va te faire? Est-ce que ça va te blesser? Est-ce que ça va te blesser? Voilà la morale de ce livre. Je nous invite à le lire. C'est un tout petit livre pour enfants, mais qui est riche d'enseignements. Je me suis dit, mais effectivement, beaucoup de chrétiens vivent malheureux finalement parce qu'on accorde beaucoup d'importance. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il y en a qui vivent aujourd'hui en fonction du passé. On m'a toujours dit que je suis nul, je n'y arriverai pas, je ne réussirai pas. Et ils continuent avec cette vie-là, même dans le Seigneur. Il suffit qu'on dise une petite remarque, mon frère, ton pantalon. Ah, c'est toute la journée, la tristesse. Toute la journée parce qu'on t'a fait une remarque. Triste toute la journée. Mais non, notre valeur à nous, c'est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de nous? Ésaïe 43, il dit, je te connais. C'est moi qui t'ai formé, dit l'Éternel. Et ce petit texte-là, c'est ça, l'enseignement qui ressort. Les gommettes, tout ce qui avait été collé sur cet homme, Puccinello, n'ont pas tenu parce qu'il est revenu à la source. Et la source lui dit, tout ce que les gens disent ne vaut rien du tout. Et seules les gommettes, c'était comme... quelque chose d'imperméable, ça vient, ça tombe. Ça vient, ça tombe. Ça vient, ça tombe. C'est ça. Et beaucoup, malheureusement, ne sont pas libres. On vit en fonction de ce qu'on m'a toujours dit. On vit en fonction de l'humeur des autres. Lorsque l'autre est de bonne humeur, moi aussi je suis bien. Lorsque de mauvaise humeur, moi aussi, je suis aux aguets, à fleur de peau. Non. Le Seigneur veut que nous soyons libres. Totalement libres. Et cette liberté se trouve en Jésus. Cette liberté se trouve en Jésus. Le Seigneur veut que nous soyons totalement libres. Alors si tu es ici, ce matin, le Seigneur veut que tu sois libre par rapport à la conversion. La conversion, c'est le fait de faire demi-tour. La conversion, c'est le fait de dire, j'ai marché. Autrefois, je me suis trompé. J'ai essayé, mais j'ai échoué. Alors, Seigneur Jésus, je viens à toi. Alors, beaucoup s'arrêtent parce qu'ils se disent, on m'a connu comme étant le caïd, on m'a connu comme étant le fort, on m'a connu comme étant celui qui a toujours raison, on m'a connu comme étant celui qui discute toujours. Et bien, maintenant, quand les gens vont apprendre que je suis devenu chrétien, que diront les gens? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont se dire? Mais ce matin, nous voulons dire que c'est ça le meilleur choix, le véritable choix. Les courageux, ce ne sont pas ceux qui refusent Dieu. Les courageux, ce sont eux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, qui acceptent de s'humilier, de dire « j'ai essayé, eh ben, j'ai échoué, alors j'ai besoin d'aide ». C'est ça le courageux. C'est ça le courageux. Je n'ai jamais vu quelqu'un malade, très malade, et il reste dans son coin en disant « je ne veux pas aller voir le médecin ». Eh ben, tu vas mourir dans ton orgueil, tu vas mourir. Mais quand tu vas voir le médecin, c'est que tu reconnais que tu as besoin de son aide. Alors le Seigneur veut aujourd'hui que tu sois libre. Du quand dira-t-on? Il y a un homme appelé Nicodème. Il est écrit qu'il voulait voir Jésus. Alors, par peur de ce que diraient les autres, parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était le docteur d'Israël, l'enseignant de la loi, un homme respecté, respectable. Et il était dérangé au fond de lui. Il était dérangé. Comment être sauvé? Il connaissait la loi et la loi dit que par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés. Parce que qui peut commettre ou alors qui peut pratiquer les véritables œuvres totalement sans entraver une seule? Personne. Il était dérangé. Alors cet homme-là s'est fait petit. Il est venu voir Jésus. Bon, il y a un détail qui est donné dans la Bible. Il est venu voir Jésus la nuit. Il s'est dit, bon, le jour, on va me voir parler avec Jésus. On va me dire, mais comment tu peux parler avec cet homme? Il a pris son courage. Il s'est dit, bon, j'irai même la nuit, mais je vais aller vers Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Imaginons un peu qui il était cet homme. Qui était cet homme? Alors la nuit, peut-être en espérant que, bon, personne ne le voit, il est allé voir Jésus. Et Jésus lui dit, pour entrer au ciel, il n'a pas posé de question à Jésus. Il vient voir Jésus, il lui dit, tu es véritablement de Dieu, tu es un vrai. Quand on voit tout ce que tu fais, cela montre que tu es de Dieu. Jésus lui dit, en vérité, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, si quelqu'un ne recommence pas à zéro, si quelqu'un ne réalise pas qu'il s'est trompé et que la vie se trouve en Jésus et qu'il ne vienne à moi Jésus, alors il ne sera pas sauvé. Alors Nicodème a voulu discuter en disant, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut retourner? Jésus lui dit, non, tu as compris. Mais ce que nous voulons dire, c'est que Nicodème a quand même pris son courage à deux mains. Même si c'est la nuit qu'il est venu, mais il est venu voir Jésus. Il est venu voir Jésus. Le salut, c'est quelque chose personnel. Et beaucoup résistent parce qu'on pense aux retours qui vont venir derrière. Il y a encore l'histoire de cet homme. Un méchant, un brigand à la croix. Discussion avec son ami. Son ami lui dit, mais si tu es de Dieu, mais pourquoi tu es là? Ben, sauve-nous, sauve-toi aussi. Et l'autre lui dit, mais tu ne crains pas Dieu. Nous, ce que nous avons, nous l'avons mérité. Mais lui, cet homme, il n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume, dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. On peut sortir toutes sortes de raisonnements, mais un homme crucifié, comment il va demander de l'aide à quelqu'un qui est à côté de lui crucifié aussi? Mais c'est parce qu'il a compris qui est Jésus. Alors ce que les gens allaient polémiquer, dire après, eh ben, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est qu'il soit approuvé par le Seigneur. C'était ça le plus important pour lui. Et la conséquence, c'est que le jour même, Jésus lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Mais pour ça, il faut accepter de dire, ben, je renonce à mon ancienne vie. J'accepte. Je sais qu'on a souvent dit que les chrétiens sont trop bons. Les chrétiens acceptent tout, les chrétiens. Tu dis, Seigneur, alors donne-moi la force de vivre cela. Donne-moi la force d'être libre, imperméable à tout ce que les gens vont dire après. Donne-moi cette force-là. Et le Seigneur est fidèle, il va le faire. Il va le faire. Le Seigneur veut que nous puissions être libres. Nous lisons Luc 15. 17 à 21. Luc 15, 17 à 21. Luc 15, c'est l'histoire de ce père qui a deux fils et le plus jeune décide d'aller faire sa vie. Et là où il va, effectivement, il fait sa vie, il dépense tout ce qu'il avait comme part d'héritage. Et il se retrouve dans une situation très difficile. Alors nous lisons verset 17. « Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On peut s'arrêter là. Alors cet enfant, ce jeune, ayant tout dépensé, il s'est retrouvé à manger même la nourriture des cochons. Quelle souffrance! Quelle misère! Alors on nous dit au verset 17, il a médité sur sa condition, il s'est dit, mais c'est pas possible. Je me retrouve aujourd'hui à vivre comme ça, alors que j'ai un père. Eh bien, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prendre mon courage à deux mains. Je vais aller voir mon père. Je veux lui dire que je me suis trompé. Mais quel acte d'humilité. Le Seigneur veut que nous soyons libres par rapport à la repentance. Par rapport à la repentance. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on ait tous les titres qu'on veut. Non. Le Seigneur veut que nous puissions, lorsque nous avons mal fait, nous humilier devant lui. C'est ça. Être prêt même à être pointé du doigt, mais aller jusqu'à se repentir. C'est ça que Dieu veut. Un homme comme David qui a péché, le roi d'Israël, quelqu'un vient lui dire, David, tu as mal fait, Dieu te punira pour ça. David n'a pas cherché à contester. David n'a pas voulu dire à Nathan, mais tu sais, moi, j'ai commencé mon histoire avec Dieu depuis longtemps. J'étais encore un enfant. Voilà ce que Dieu a fait avec moi. Voilà. Non, non. David était libre. Nathan lui dit, cet homme qui a fait ça, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Quelle liberté. C'est là que le Seigneur veut nous emmener. Il y a des gens qui n'osent pas se repentir parce qu'ils se disent, mais si je me repens ou si je confesse, mon problème à un tel frère, il va se dire, mais ah bon? Mais toi aussi, parfois les chrétiens, ils en rajoutent. Mais c'est bien, gloire à Dieu. Je ne dis pas gloire à Dieu qu'ils en rajoutent, gloire à Dieu parce que là, tu es humilié jusqu'au... C'est ça la démarche. Si tu vas confesser, c'est que le péché soit dévoilé. Maintenant, si la réaction n'est pas celle que tu attendais, tu dis, bon, trop tard, j'ai déjà balancé la sauce, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit trop tard. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. Être libre du regard des autres. Et c'était le cas pour ce jeune homme. En plus, on parle d'un jeune. C'est vrai que le fait de s'humilier, peu importe l'âge, ce n'est pas facile. Mais pour quelqu'un qui est encore jeune, je peux vous dire que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Quelqu'un qui a un certain âge, il a l'expérience de la vie, il a appris des choses dans la vie, il a... Mais quelqu'un qui est jeune, quand il a une position, moi je le vois au travail là. Il y a l'orgueil qui te prend, tu dis non, jamais tu vas t'humilier, jusqu'au bout. En plus, il y a peut-être la force physique aussi qui te fait croire que tu es invincible. Eh bien, t'humilier, dire je me suis trompé, mais... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Et voilà ce jeune qui prend ce risque. Parce qu'en revenant vers son père, eh bien, il y a déjà son frère. C'est la réaction qu'il a eue. Oh là là. Alors voilà, il revient à la maison. Il imagine la réaction de son père. Il va dire, mais tu m'as fait souffrir tout ce temps. On ne savait pas où tu étais. Et la réaction des voisins aussi pour dire, oh, il est revenu. Il est là. Il est revenu. On te pointe du doigt, on te toise. Mais il a accepté, il a dit non, je suis libre de tout cela. Je me suis trompé, je vais aller voir mon père. Quand les gens viendront pour dire, ah, tu as compris, oui, j'ai compris. J'ai compris. Et le Seigneur veut que nous soyons libres. Lorsqu'on doit se repentir, ne pas chercher d'explication, ne pas chercher à se dédouaner en disant, bon, ok, je vais dire pardon, mais non, 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 il n'y a pas de mais. Je dis pardon, j'ai mal fait, c'est tout. Satan va vouloir toujours équilibrer. Non. Sois libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Peu importe ce que les gens vont penser. Le plus important, c'est que moi, je sois en paix avec mon Dieu. Amen. C'est ça le plus important. Le Seigneur veut que nous puissions être libres pour pouvoir l'adorer. Librement. L'adorer avec ce que nous avons, ce que nous pouvons. On va te dire, mais ta voix, en tout cas, moi, je chante pour mon Dieu. Moi, je chante pour mon Dieu. Si ma voix n'est pas correcte, priez pour moi pour que Dieu m'aide. Mais moi, j'exprime ce qu'il y a dans mon cœur. Et beaucoup n'osent même pas élever la voix. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils se disent là, ils commencent à penser à la fausse note. Mais soyons libres. Il y a l'exemple d'un homme, toujours le même, 2 Samuel chapitre 6. David, il apprend que l'arche de l'Éternel se trouve à Obed-Edom. L'arche est en direction de la cité de David. Et bien, qu'est-ce que David fait? David se met à danser. Il convoque le peuple. Il danse. Et par la fenêtre, il y a Michal, sa femme, fille de Saül, qui est habitué à voir, comme c'est la fille de Saül. Donc son père, Saül, était roi. Un roi respectable, imposant. Alors elle voit le nouveau roi David, son mari, danser. Presque à se dévoiler devant le peuple. Et il est écrit, elle méprisa David. Elle s'est dit, mais quel est ce roi-là, qui n'a pas de dignité pour lui-même. Et lorsque David rentre à la maison, David bénit le peuple, il bénit l'assemblée, il vient à la maison pour bénir sa maison, sa femme l'attend en colère en disant, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, mais t'as pas honte? Toi, un grand roi, tu te mets à danser comme ça jusqu'à à te dévoiler devant le peuple. Il dit, mais qu'ai-je fait de mal? Il dit, pour mon Dieu, je vais être encore plus vil. C'est la réponse que David donne, ceux qui veulent lire 2 Samuel 6. Il dit, je vais faire encore des choses plus viles pour mon Dieu. Parce qu'il a tant fait pour moi. Parce qu'il a tant fait pour moi. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons libres de pouvoir l'adorer. Il y en a, il sent qu'il doit danser, mais il regarde, il se dit non, si moi je danse, qu'est-ce qu'un tel va dire? Mais non, mais non, mais non. Voilà un homme comme David. Je n'ai pas fini l'histoire de Michal. Michal lui dit, mais tu as déshonoré ton rang de roi. Il dit, pour mon Dieu, je ferai ce qui est vil, j'irai encore même plus loin. Et il est écrit que Michal n'eut point d'enfant depuis ce jour-là jusqu'à sa mort. Elle a méprisé David qui adorait son Dieu librement. Elle a osé attaquer David pour ça. Mais l'exemple, nous l'avons pris pour dire, quand nous avons compris qui est Dieu, alors on est libre. On est libre. Qu'est-ce que va penser un tel? Qu'est-ce que va penser? Ce n'est pas mon problème. Au lycée, tout le monde va savoir, il a dansé à l'église. Gloire à Dieu. Je danse pour mon Dieu. Quand on voit les païens qui n'ont pas honte de faire des bêtises, tu vois un papa, un homme qui se travestit en femme, sans gêne, parfois chef d'entreprise, policier, mais sans gêne. Quand on se dit, mais non, alors nous qui avons l'Éternel, pourquoi avoir honte? On voit des présidents qui n'ont pas honte de s'afficher parfois avec leurs compagnons hommes. Ils n'ont pas honte. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'adorer notre Dieu? Est-ce que c'est le regard d'un tel? Est-ce que c'est... Non. On s'exprime. S'il faut se mettre à genoux, on se met à genoux. S'il faut s'allonger, on s'allonge. S'il faut même s'asseoir par terre, il y a une chaise, on s'assoit par terre parce que c'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Peu importe le regard des autres. Peu importe le regard des autres. On fait avec ce qu'on a. C'est l'exemple de cette femme qui est venue, qui a donné les pièces, les petites pièces qu'elle avait. Le Seigneur regarde, il dit, regardez, venez voir. Tous les autres qui donnent là, c'est du superflu. Voilà cette femme, ce qu'elle a donné là. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça la véritable adoration. Elle aurait pu se dire, mais avec mes pièces là, quand je vais les mettre, les gens vont voir que c'est moi qui mets ça. Mais beaucoup se bloquent comme ça. Beaucoup se bloquent. Avec le peu que tu as, glorifie Dieu. Tu apprends à jouer un instrument, tu connais que 2 accords. Avec 2 accords, tu peux faire plus de 100 chansons. Fais avec les 2 accords. On va te dire, mais toi qui joues là, c'est toujours les mêmes accords. Parfois les chrétiens, ils sont... Mais c'est toujours la même chose. Oui, c'est pas grave. C'est toujours la même chose, mais le son sort. Mais je le fais pour adorer mon Dieu. Amen. Je le fais pour adorer... Je suis libre. Et beaucoup n'osent rien faire parce qu'ils se disent, non, je veux pas faire des bêtises. Je ne dis pas qu'on doit faire le désordre, non. Dans les 2 notes là que tu fais, les 2 accords, c'est correct. C'est correct, gloire à Dieu. C'est ça. Mais soyons libres d'adorer notre Dieu. Nous allons prier afin que le Seigneur nous délivre aujourd'hui de toute pression, tout regard, toute importance qu'on a attachée, accordée à notre environnement. On ne vit plus peut-être pour le Seigneur, on vit en fonction de ce que peut penser un tel ou un autre. Que le Seigneur nous délivre de cela. Et nous allons prier aussi pour ceux qui sont là, qui ont été touchés dans leur cœur, qui veulent ou se posent des questions sur Dieu, veulent venir au Seigneur, mais la pression est grande. On se dit, mais je deviens chrétien, qu'est-ce que les gens vont penser après? Nous allons prier pour tout cela afin que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu nous délivres, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons été peut-être influencés par nos familles, Seigneur. Nous avons peut-être été influencés par notre entourage. Nous avons peut-être été influencés, Seigneur, par le « quand dira-t-on, Seigneur ?» Mais Seigneur, ce matin, nous réalisons et nous comprenons que ce qui importe, Seigneur, c'est ce que toi, tu penses. Alors nous prions pour que tu nous délivres de toute volonté de vouloir plaire, Seigneur, autour de nous. Délivre-nous, Seigneur, de toute volonté, Seigneur, de vouloir plaire autour de nous. Tu veux que nous puissions avoir un bon témoignage, c'est vrai, Seigneur. Mais tu ne veux pas que cela soit au détriment de la vérité, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides. Délivre-nous, Seigneur. Nous voulons être totalement libres. Totalement libres, Seigneur. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui, Seigneur, ont été touchés, Seigneur, peut-être présents parmi nous pour la première fois, ceux qui hésitent, Seigneur, à se donner à toi, parce que la pression de l'extérieur est forte, parce que le quand dira-t-on, Seigneur, est là permanent, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu délivres, Seigneur, aujourd'hui. Merci d'agir. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui, Seigneur, souhaitent passer par les eaux du baptême et qui résistent aussi, Seigneur, pour les mêmes raisons. Seigneur, nous prions pour que tu agisses. Toi qui es le Dieu vivant, merci d'agir par ton esprit. Et nous prions pour nous-mêmes aussi, Seigneur, afin que nous puissions être libres de t'adorer, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, comme David, Seigneur, avait compris qui tu étais, Seigneur, au point de paraître vil devant tout un peuple, Seigneur, qu'il dirigeait. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, tu nous ouvres les yeux aussi, afin de comprendre qui tu es. Et nous prions enfin, Seigneur, afin que tu nous rendes libres, Seigneur, de pouvoir nous repentir. Au nom de Jésus. Nous voulons être libres, Seigneur, de confesser notre problème, comme ça a été le cas pour ce fils, qui n'a pas regardé, Seigneur, aux réactions, aux commentaires, Seigneur, qui auraient pu être faits, Seigneur. Il s'est humilié, nous prions aussi pour que tu nous aides, Seigneur, à nous humilier, à nous repentir, Seigneur. Quel que soit, Seigneur, les regards ou les commentaires qui peuvent être faits, Seigneur. Nous voulons être totalement libres. Merci pour la délivrance. Seigneur, merci pour ta promesse, ta parole qui nous dit, Seigneur, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Nous ne voulons pas seulement que ça reste un verset, mais que nous puissions le vivre. Que notre vie ancienne devienne le passé. Lorsqu'on nous rappelle notre vie ancienne, que nous n'ayons pas à rougir, parce que c'est le passé. Maintenant, nous sommes en toi, Seigneur. Maintenant, nous sommes justifiés. Non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de ta grâce, Seigneur. Par la foi en toi, Seigneur. Merci de délivrer tous ceux qui vivent avec les blessures du passé, qui sont comme des chaînes, Seigneur, qui les maintiennent, Seigneur, liées. Nous prions pour que tu nous délivres au nom de Jésus.